Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Croyants ensemble vers la paix. Cette semaine, comme chaque deuxième vendredi du mois, nous vous proposons un témoignage, une expérience personnelle. Dans le Vivre ensemble à Cannes, comme nous vous l'avons dit, nous sommes tous de religions différentes, de cultures, d'âges différents. Mais on se rend compte qu'il y a toujours un fil commun, un fil divin. Chaque mois donc, un membre du Vivre ensemble à Cannes nous livrera son fil d'or. Aujourd'hui, nous retrouvons Mustapha Dali, recteur de la mosquée de Cannes, qui va nous livrer son fil d'or. C'est aussi le vice-président du Vivre ensemble à Cannes. Bonjour Mustapha.
Bonjour Claire.
Donc, avant d'être recteur, vous fréquentiez déjà Cannes en tant qu'artiste de théâtre et de cinéma. Et puis, il y a un moment où votre vie a basculé, où la main de Dieu s'est posée sur vous. Maintenant, vous êtes un artiste de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre histoire ?
Bonjour à tous, merci Claire, merci encore à nouveau pour cette invitation. C'est une invitation que j'ai eu du mal à accepter, mais je l'ai fait pour le vivre ensemble, je l'ai fait pour cette aventure que nous avons commencée ensemble depuis plus d'un an et demi. Se livrer soi-même n'est pas une sinécure, hein. Ce n'est pas facile pour moi. Il y a à la fois la pudeur, il y a aussi le lieu où l'on parle, où cette parole doit être dite. Et je vous avoue que c'est la première fois que je parle de moi-même dans une radio, quelle que soit la radio. Je suis rassuré du fait de le faire dans une radio catholique, une radio de croyants. Parce qu'il s'agit de parler quelque chose d'intime, de parler de son être intérieur. Effectivement, Cannes est une ville tout à fait symbolique pour moi. J'ai eu passé ma jeunesse. Ma jeunesse a été habitée par un monde qui est celui de l'art, où l'homme étant un acteur et qui doit transmettre d'une certaine manière avec cette dextérité qu'est la sienne, cette multitude de signes, de personnages qui l'habitent, qui le fantasment en lui-même. Donc jouer dans une pièce de théâtre ou un rôle important ou un premier rôle ou être à la une d'une annonce d'un film important, c'est ce que rêve tout acteur qui commence son cheminement comme ça dans la voie artistique. Donc ça a été pour moi, oui, effectivement, une étape importante dans ma vie. Ça m'a beaucoup servi dans ce que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je m'appuie sur ça, mais disons que je suis la conséquence aussi, un peu de cela. Et pourquoi Cannes ? Cannes, c'est vrai que c'est la ville du festival. Comme tout un chacun, j'ai fréquenté à l'époque de la Nouvelle Vague, n'est-ce pas, de Godard, de Truffaut, enfin tous ces hommes, etc. Et moi, j'étais jeune. J'ai vite compris que le domaine du théâtre m'accaparait davantage que du cinéma, mais j'ai fait deux ou trois séjours à Cannes et j'ai voulu monter, comme tout le monde, les marches du palais. Et j'ai souvenir d'avoir, dans la journée du dimanche 27 septembre, pour une fois grimpé les marches, n'est-ce pas, à l'envers. Nous avions pris une photo, souvenez-vous Claire,
oui, oui,
pour la grande marche pour la paix. Et ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle de monter sur ces marches de cette façon-là pour prendre une photo et de dire, mon Dieu, que le temps passe vite. Et le temps laisse son empreinte comme ça, indélébile, dans notre intérieur. Et la bascule s'est faite un jour, très simplement, au moment où la dimension de l'être a commencé à me préoccuper. Il y a 40 ans de cela. Vous voyez que c'est... vous savez, j'ai été à Cannes souvent, pas vraiment, j'étais surtout à Nice. J'ai vécu à Nice pendant des périodes assez courtes, mais longtemps, qui m'ont marqué aussi, puisque j'ai intégré le théâtre de Nice à un moment donné, juste après 68, à la période 68-69. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été professeur d'art dramatique en Iran, à Téhéran. Ensuite, j'ai été aussi quelque part dans les pays qui sont aujourd'hui des lieux de troubles, hein. J'étais en Irak. Je cherchais à étudier le théâtre No, le théâtre Tazieh, qui était un théâtre très populaire, mais en même temps sacré en Iran. Et le théâtre No aussi. J'essayais de travailler dans des domaines un petit peu particuliers. Ce n'était pas un cheminement classique, hein. Bien que je fût au Conservatoire d'art dramatique comme auditeur libre, j'ai travaillé avec Balachova, avec des grands noms, des gens qui sont extraordinairement importants dans la vie des acteurs et des artistes qui aujourd'hui... certains sont disparus d'ailleurs, hein. puisque le monde du paraître vous asphyxie avec le temps, puisque la sublimation de l'ego, c'était pas ma tasse de thé. En réalité, il y a eu une rupture qui s'est vue très très rapidement, et c'était la rencontre avec d'abord des livres, et ensuite un homme particulier, avec son fils d'ailleurs. C'est plus le fils, mais j'ai plus envie de parler du père que du fils, parce que le fils est encore vivant et le père n'est plus de ce monde. Et c'était un saint homme. Et il m'a donné un livre qui a complètement changé ma vie. Voilà.
Vous écoutez RCF sur la croisette sur 96.8.
Donc Mustapha Dali, je rappelle que vous êtes le recteur de la mosquée de Cannes. Et aujourd'hui, vous avez bien voulu accepter de nous livrer un petit peu votre fil d'or. Donc vous venez de nous dire que vous étiez un artiste de théâtre, de cinéma, et que tout d'un coup, votre vie a basculé, que vous êtes devenu artiste de Dieu, notamment par une rencontre, par un livre. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bon, j'ai eu un livre d'abord. C'était un livre de chevet qu'on m'a offert le jour où je me suis marié. Par le fils de cet homme béni qui vit toujours en moi, que j'ai très peu connu. Hein. Je l'ai croisé 3 fois chez lui, à Antony. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de lui parce que...
Alors parlez-nous du livre qui vous a...
Alors c'est un livre qui fait partie d'un saint musulman. Il a écrit un certain nombre de lettres qu'il a adressées à ses disciples, n'est-ce pas ? Et qu'un homme éminent, c'est un grand savant musulman d'origine suisse, musulmans. Bon, l'islam n'a pas de race, hein. On trouve des musulmans partout dans le monde. Et ce musulman suisse, qui s'appelait Titus Burkhardt, qui est un des grands spécialistes de l'art islamique, a traduit ce livre, quelques dizaines de ses lettres, qui s'appelle « Lettres d'un maître soufi à des disciples ». Et tous les passages des lettres que j'ai pu lire concernaient ma vie. Tout d'un coup, c'était ce jour-là, précisément où j'ouvrais les premières pages de ce livre, j'ai compris qu'un nouveau destin que Dieu me réservait, que je devais accepter ce destin-là. Et pour ce faire, j'ai prié le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, bon voilà, moi je suis attiré. C'était précisément au moment où ma vie artistique prenait son apogée, où j'avais changé de ce qu'on appelait d'agent.
Oui, je crois qu'on vous proposait un très bon rôle dans un film.
Dans un superbe film qui se passait dans le désert. Je ne citerai pas le film, hein. Je ne me demandez pas de détails, s'il vous plaît. Mais où je jouais le rôle d'un prince arabe, etc. Bon,
vous aviez aussi une vie sociale, vous avez beaucoup d'amis.
Absolument.
Vous étiez toujours invité à droite, à gauche. Donc, point de vue humain, on pourrait penser que vous aviez tout. Mais en fait, c'est à ce moment-là que vous acceptez de tout laisser pour suivre quelqu'un de plus grand.
Le couperet, Dieu a dit stop. Voilà. Et pour ce faire, il a coupé tous les liens de communication avec ce monde. Et ce n'est pas de mon fait, c'était sa volonté. J'attendais des signes, et puis le grand silence pendant des semaines et des mois, personne ne venait me voir ou me contacter. Je me retrouvais seul avec ma nouvelle vie, et ce livre, et des livres, et aussi cette fréquentation avec cet homme, et surtout son fils. Je me permettrai de garder le silence sur leur nom, si vous me permettez, Claire. Par toute pudeur, parce que je ne leur ai pas parlé de cela. Mais par contre, très paradoxalement, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai revu cette personne qui vivait dans une maison au haut de la montagne qu'il avait construite avec sa famille. Et je suis allé le voir et j'étais très très heureux avant là. C'était précisément au moment où il perdait sa maman. Et son papa avait bien sûr été mort bien plus avant. Et cet homme m'avait dit, je suis en train de récupérer pratiquement tous les écrits de mon papa. Il l'appelait papy. Il l'appelait P, pardon. C'est très étrange. Hein. Peut-être que s'il nous entend, il se reconnaîtra. Il appelait P et puis il disait, voilà, je vais peut-être produire un livre de ses poèmes. Et il m'a offert un poème. Deux poèmes. Il m'a dit, en avant-garde, peut-être ce livre sortira un jour. Et j'ai pris ce poème et j'aimerais vous le lire. Et c'est un moment très, très difficile, très délicat pour moi parce que j'avais des soucis avec mes enfants. Et il m'a donné par hasard un poème qui me parlait très fortement. C'était alors qu'il n'était plus là, il n'était plus dans ce monde, n'est-ce pas ? Et qui a tout résolu vis-à-vis de ce petit problème. Chaque famille, je crois, en avait des soucis avec les siens, n'est-ce pas ? Alors, si vous me permettez, le poème est intitulé « Les joies de ma misère ». Voilà déjà un paradoxe, « Les joies de ma misère ». J'ai prononcé dans mon silence le nom béni de mes enfants. Qu'ils sont loin les jours innocents. des miraculeuses naissances. Je n'avais que à vous offrir. J'ai tourné vers vous leur visage, mon Dieu. Gardez-les sans partage. Leur paix m'aiderait à mourir. Je les ai faits de mes prières. Mon amour pour vous est en eux. Ils sont les larmes de mes yeux et les joies de ma misère. J'étais cet unique rayon, ô mon Dieu. Sans lui, que serais-je ? C'est fait. Vous m'avez pris au piège. Il ne reste que votre nom.
RCF Côte d'Azur.
L'essentiel. Tout près de chez vous. À Cannes, sur 96.8.
Un grand merci Mustapha Lali pour ce que vous venez de nous partager. On sent toute l'émotion, toute l'importance aussi qu'a eu ce poème dans votre vie. Maintenant, cela fait 14 ans que vous êtes recteur de la mosquée de Cannes. Et quelles sont les valeurs essentielles qui continuent à vous porter dans votre foi musulmane ?
Oh Claire, c'est très simple. La valeur la plus forte, on la vit dans le vivre ensemble. Pour moi, c'est la valeur de la fraternité. Vous savez, c'est ça qui me motive le plus, au-delà de tout. On pourrait invoquer la valeur de la justice. Oui, bien sûr, je me bats aussi pour des causes contre les injustices dans le monde, n'est-ce pas, des combats politiques, etc. Mais là, la valeur de la fraternité, je pense qu'en urgence, il faut la revaloriser. Et qui d'autre mieux que les croyants peuvent le faire ? Nous sommes frères en fraternité. Je vous dirai ceci. Regardez, voilà un verset coranique. L'islam a expliqué les bases de la relation sociale. Il les a établies sur la foi de la fraternité. Il les a établies, ces bases, sur la foi et la fraternité. Voilà ce que dit Dieu. Les croyants ne sont-ils pas des frères ? Reconciliez donc vos frères et craignez Dieu afin de mériter sa miséricorde. Et appelez les croyants à l'harmonie et le fait de les conseiller. Et le fait de se conseiller. Voilà un verset qui m'interpelle. Et par conséquent, pour moi, cette valeur de la fraternité qui doit se construire dans le vivre ensemble, c'est un long chemin. C'est un long chemin, je dirais, initiatique. Parce que c'est un travail à la fois intérieur et c'est un travail avec les autres qui sont différents de nous. Et moi, je crois qu'en tant que musulman, je trouve plus la force aujourd'hui à essayer d'œuvrer vers cette fraternité avec mon frère chrétien, protestant, juif, même bouddhiste. Parce que j'arrive très difficilement au sein de ma propre communauté. Alors que c'est un fondement scripturaire, la fraternité chez nous. Autant que la prière, autant que le jeûne. Vous voyez, c'est un fondement. Mais cette fraternité, elle revêt, en quelque sorte, une certaine sécheresse. Et la difficulté de le faire au sein de sa propre communauté m'oblige parfois à m'éloigner d'eux. Mais je ne m'éloigne pas d'eux, ni dans ma foi, ni ma croyance. Je prie souvent pour ma communauté. Mais voyez-vous, je découvre aujourd'hui que la fraternité, elle ne doit pas se limiter à sa propre famille spirituelle. Elle doit s'élargir parce que c'est une urgence impérieuse vu l'état du monde. Et nous, les croyants, chrétiens, protestants, juifs, tous les croyants du monde, doivent s'unir vers ce travail de la fraternité.
Et vraiment, dans le vivre ensemble, moi qui suis catholique, je vois combien les frères musulmans sont présents. Même là, on l'a vu pour le festival. Il y a vraiment une très grande fraternité et on voit combien c'est important. Dans votre parcours, peut-être la dernière rencontre que vous ferez, c'est quand vous arriverez devant Dieu. Donc, à ce moment-là, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise ?
Vous savez, un autre livre très important, ce sont les sagesses d'un grand saint musulman qui sert ma vie spirituelle, qui me nourrit spirituellement. Alors, vous savez, Dieu, c'est ici, dans ce monde, qu'il faut le rencontrer. Ce n'est pas au-delà. C'est-à-dire aller cheminer jusqu'à la connaissance de Dieu, et c'est le but de tout croyant. Alors je vous donnerai simplement ce poème qui dit « Si la lumière de la certitude brillait, tu verrais l'autre monde tout proche de toi, pour qu'il faille entreprendre un exode vers lui. Et tu verrais l'éclipse de l'alignation couvrir déjà les beautés de ce monde. » Ce poème explique bien cette rencontre avec Dieu, ici et maintenant.
Un grand merci Mustapha Dali pour ce témoignage et ses magnifiques poèmes.